Bonjour à tous. J'espère que tout le monde se porte bien. Et nous allons tout d'abord répondre à certaines des questions qui ont été reçues par écrit. Et puis, nous passerons aux questions qui sont posées en direct. Donc, la première question nous vient de José Mathieu. Et elle a posé trois questions. La première question, c'est pour approfondir ma question précédente et votre réponse pendant le summer camp. Quelles sont les différences entre le concept de conscience universelle et le Dharmakaya, qui est pure présence? Donc Rinpoche répond. Vous savez, de façon générale, je ne peux pas vraiment dire ce que vous entendez par conscience universelle. Ça peut sans doute vouloir dire beaucoup de choses, mais fondamentalement, dans le bouddhisme, on n'utilise pas cette expression de conscience universelle. Parce que il y a beaucoup de débats entre les hindous et les bouddhistes sur ce point. Dans l'hindouisme, on parle d'une sorte de conscience universelle qu'ils appellent le Praman Atman. Ils pensent qu'il y a l'Atman et le grand Atman, ou une conscience universelle, et puis que de là vient notre conscience individuelle. Et que quand notre conscience individuelle se dissout dans cette conscience universelle, alors c'est ce qui correspond à notre libération. Les bouddhistes ne sont pas d'accord avec ça, et ça a suscité beaucoup de débats, de controverses. Et une des raisons, c'est que quand vous dites qu'il y a une conscience universelle, cela implique que la conscience de chacun serait une partie d'un tout, et que donc cette conscience universelle existerait en elle-même et par elle-même, de façon indépendante. Et c'est ça le problème. C'est pourquoi les bouddhistes ne parlent pas de cette conscience universelle. Maintenant, en fait, il y a deux façons de voir la conscience. Si vous regardez la conscience, si vous essayez de comprendre la conscience comme quelque chose qui serait là, qui serait déjà présent, alors il ne peut rien y avoir qui serait existant en soi. Et donc, tout est vacuité par nature. Donc, vous ne pouvez pas dire qu'il y a une conscience universelle. Mais, bien sûr, si vous regardez les choses d'un point de vue de l'expérience qu'on en fait, alors il y a bien une conscience, mais qui n'est pas nécessairement universelle, qui n'est qu'une faculté de présence. Et donc, comme j'avais essayé de l'expliquer la dernière fois, du point de vue bouddhiste, on ne parle pas de conscience universelle. Maintenant, pour ce qui est du Dharmakaya, si vous regardez l'expérience de la conscience, sa véritable nature, la façon dont elle est réellement, vous pouvez dire conscience pure si vous voulez, vous pouvez, on peut parler de conscience pure, Rinpoche réfléchit, parfois on explique les choses de la façon suivante. Quand on prend un être totalement éveillé, eh bien, la façon dont cet être fait l'expérience de lui-même, c'est ce que l'on appelle le dharmakaya. La façon dont un être éveillé fait l'expérience de tout, de toute chose, c'est ce que l'on appelle le sambhogakaya. Et la façon dont un être éveillé est se manifeste ou est perçu peut se manifester de sorte qu'il puisse être expérimenté par des êtres non éveillés. Ça, c'est ce qu'on appelle le nirmanakaya. Donc, il y a ces trois choses. Mais le dharmakaya, c'est la véritable essence. C'est comment notre conscience est en réalité. C'est ça, le dharmakaya. Je ne sais pas si ça explique ou pas. Mais vous pouvez étudier davantage si vous souhaitez en apprendre plus sur ce sujet. La seconde question, c'est, pendant le séminaire d'été, vous avez fait une comparaison entre la conscience et l'eau. La conscience est continue, de même que l'eau peut être continue. Je suis en train de lire la traduction française d'un livre de Eckhart Tolle. Et dans ce livre, il dit, si ma traduction de français à l'anglais est bonne, de même que l'eau peut être solide, liquide ou gazeuse, on peut considérer que la conscience est gelée sous la forme de matière physique matérielle, liquide sous forme de conscience ou gazeuse sous forme de conscience pure. Et donc là, il y a une partie de la citation d'Eckhart Tolle que je n'ai pas compris. Mais donc la personne termine sa question en demandant, est-ce que vous êtes d'accord avec cette façon de présenter les choses, ou est-ce qu'il y a une différence entre ce point de vue et le vôtre? Alors Rinpoche répond. Rinpoche dit cet exemple de l'eau et de ses différents états, vous pourrez le trouver dans le bouddhisme également. Donc sous sa forme gelée, puis sous sa forme liquide, solide, puis liquide, puis gazeuse. Si l'eau est gelée, c'est de la glace, c'est très solide. Si elle n'est pas solide, alors elle va être liquide, ça va être de l'eau et elle pourra s'écouler. Et puis si cette eau est rendue bouillante, elle devient de la vapeur et elle s'évapore, et alors elle peut se dissoudre dans l'espace. En quelque sorte, elle va disparaître. Donc ça, c'est un exemple bouddhiste traditionnel. Je ne peux pas dire si c'est exactement la même chose que ce que dit Eckhart Tolle, parce que je n'ai pas étudié Eckhart Tolle en profondeur. J'ai lu un de ses livres que j'ai beaucoup apprécié, mais je ne peux pas prétendre que je suis en mesure de comprendre pleinement. Donc je ne peux pas dire que j'en sais assez le concernant pour savoir si c'est vraiment tout à fait pareil ou différent. Maintenant, est-ce que peut-être il y a des questions en direct avant que je continue les questions écrites ? Donc il y a une question de Amy. Donc Rinpoche dit bonjour. Bonjour Rinpoche, ça me fait si plaisir de vous voir. J'ai pris beaucoup de plaisir à écouter ce que vous avez dit jusqu'à présent. Et j'ai levé la main dès lors que j'ai allumé Zoom. Et ma question est une question très pratico-pratique concernant l'hôtel. Ok, dit Rinpoche. Et j'aime beaucoup ce dont vous parlez, dit Amy. Trangu Rinpoche a écrit un livre qui est vraiment bien concernant les discussions sur la conscience et je l'ai étudié pendant l'un des programmes sur 2 ans que j'ai fait, mais peu importe. J'ai entendu cet enseignement sur les hôtels récemment et vous connaissez ma maison, vous me connaissez. Et du coup, je me suis mis à m'occuper de mes bols. Et je veux dire, parfois je fais des prosternations dans ma chambre. J'ai des bouddhas un peu partout dans ma maison. Donc en quelque sorte, on pourrait dire que toute ma maison est un hôtel, mais j'ai un hôtel, un vrai. Et après des années passer à être très diligente, je trouve que parfois je me réveille au milieu de la nuit et je me dis mince, j'ai pas vidé les bols de mon hôtel. Et je me demande qu'est-ce que vous recommandez pour des gens aussi ignorants que moi qui sont stupides. Est-ce que vous pensez que je devrais plutôt mettre des graines ou du riz, ou bon, j'ai déjà de l'encens, des choses comme ça. Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous me conseilleriez? Alors Rinpoche rigole et il dit « Je pense que je ne sois pas le mieux placé pour répondre à ce genre de questions. » Parce que peut-être je devrais pas le dire, mais parfois il se passe tellement de temps jusqu'à ce que je change l'eau que la moitié de l'eau s'est évaporée. Et elle dit oui, c'est mon problème. Mes bols aussi commencent à être vides. Et donc Rinpoche a dit j'ai passé la gestion de mon hôtel à mon frère et à ma belle-sœur. Donc ils font maintenant tout ça et je ne fais rien parce que si c'est moi qui le fais, je vais pas le faire très bien. Donc, je ne pense pas être vraiment très bien placé pour répondre à cette question. Parce que la façon correcte, les personnes diligentes, comment ils font ça, c'est que ils vide l'eau chaque soir, il nettoie les bols, et puis le matin, ils remettent l'eau, et ils font ça de façon très directe, parce que en fait, en faisant cela, on peut pratiquer les 6 paramitas. Donc il y a tout ce genre de choses. Mais en tout cas, il y a plein de façons différentes de le faire, avec juste de l'eau. Et on dit que ça a commencé au Tibet, cette tradition. Vous connaissez peut-être l'histoire. C'est Atisha Dipankara, quand il est arrivé au Tibet, il était tellement impressionné par la pureté de l'eau, par sa qualité, par sa clarté, qu'il a dit aux Tibétains, ici votre eau est si bonne, si agréable, si vous ne faites que de l'eau, si vous n'offrez que de l'eau, ce sera suffisant, tellement elle est bien. Et donc les gens ont commencé à faire ça. Mais c'est aussi peut-être parce que au Tibet, on ne peut pas toujours trouver des fleurs, notamment pendant les hivers qui sont très longs. On ne pouvait pas vraiment trouver des fleurs. Mais en tout cas, il y a vraiment différentes façons de faire les choses. Et les Tibétains font ça de façon très méticuleuse. Mais en fait, Rinpoche, c'est vraiment propre à chacun. Ça, c'est à chacun de voir, ça varie d'une personne à l'autre. Vous pouvez avoir un très bel hôtel et on dit que c'est très bien. Mais parfois, il y a des gens. On dit que quel que soit l'endroit ou la façon dont vous pensez au Bouddha, le Bouddha est là. Donc c'est aussi là, même quand il n'y a pas un hôtel. Donc, mais vous pouvez avoir un hôtel et c'est aussi très bien. Rinpoche riait de nouveau. Amy dit, est-ce que vous pensez que c'est ok si je garde juste les bols à l'envers et que j'offre mon esprit et tout ce que j'ai? Je ne sais pas. Qu'est-ce que je devrais dire? Vous me comprenez, je pense. Je suis en recherche de recommandations. Et Rinpoche dit, les personnes qui n'arrivent pas à prendre l'habitude de remplir d'eau chaque jour, ce qu'ils font, c'est qu'ils y mettent des graines. Et puis, donc une fois qu'il y a les graines, ils y mettent différentes offrandes, comme de l'encens, ils piquent un bâton d'encens. Donc vous pouvez faire les choses de plein de façons différentes, ou même avec des pierres précieuses, ou tout ce genre de choses. Elle a dit, j'ai pas compris ce qu'elle a dit. Après beaucoup d'années passées à être bonne et à être diligente, alors Rinpoche dit, bah vous pouvez le faire. Alors ça peut aussi être un entraînement, c'est un bon entraînement à être attentif. Mais si vous ratez un ou deux jours, c'est aussi ok, ça pose pas de problème. Et elle dit, ok, merci beaucoup. Donc la prochaine question est de Kat. Bonjour Rinpoche. Comment allez-vous, dit Rinpoche? Je vais bien. Comment allez-vous, dit Kat? Ils échangent des tâches et délais. Et elle dit, merci beaucoup. J'apprécie tellement tous vos enseignements. Je les trouve fabuleux. Merci, dit Rinpoche. J'ai une question sur le chapitre concernant la diligence. Je relisais les stances 8 à 13, et j'ai une question sur ces stances. J'ai écrit ma question, je vais la lire. On nous enseigne d'être libre de la peur, et pourtant ces stances semblent créer de la peur. Rinpoche demande de répéter. Elle répète, on nous enseigne à être libre de la peur, mais ces stances en particulier semblent créer de la peur. Est-ce qu'il est nécessaire de se connecter à nos peurs afin de les surmonter? Pour clarifier, est-ce que nous essayons d'utiliser nos peurs pour aller au-delà de notre peur? Merci. Alors, Rinpoche dit, je pense que les choses sont de la façon suivante. Il faut que nous comprenions les conséquences de nos actions. Et nous ne voulons pas de quelque chose qui nous causera beaucoup de problèmes et de difficultés et de douleurs pour nous-mêmes ou pour les autres. C'est naturel, n'est-ce pas? Donc, quand vous parlez de la non-peur, il ne s'agit pas de dire « je me fiche de ce qui va arriver ». Ça, c'est stupide, n'est-ce pas? Ça, c'est stupide. Donc, nous devons être pleinement conscients de la situation, des conséquences de nos actions, de ce qui se passe, de ce qui pourrait arriver. Et donc, réfléchir et apprendre, comment dire, avoir cette compréhension claire des conséquences. Vous pourriez appeler ça de la peur si vous voulez, mais on pourrait tout aussi bien appeler ça être conscient ou avoir de la compréhension ou voir les causes et les effets, les causes et les résultats. Ceci est quelque chose d'important. Sans cela, vous n'êtes pas en mesure de prendre des décisions quant à vos actions à venir. Donc, ce type de peur est, je pense, bienvenue. Elle est importante. Si vous ne comprenez pas les conséquences, ou si vous devenez je m'en foutiste, alors ça n'est pas du tout une bonne chose. Mais la peur en elle-même, la crainte en elle-même, devenir en train de paniquer, perdre ses moyens, ne plus être en capacité de devenir, d'avoir l'esprit clair quant aux actions, ça devient une peur inutile. Il n'y aurait plus que de la peur. Et cette peur vous paralyse, vous bloque, elle, comme si vous étiez gelé, tétanisé. Cette peur-là, elle rend inactif. Et elle rend incapable de voir les raisons, parce que si vous paniquez, alors les choses vont devenir ainsi. Quand vous paniquez, alors votre esprit devient gelé, figé, et vous n'êtes plus en capacité de réfléchir, de penser correctement. Et alors, vous ne pouvez plus entreprendre d'actions correctes. Vous ne savez plus comment faire les choses. Et donc ce type de peur-panique n'est pas une bonne chose. Mais comprendre, et à partir de ça, quand vous voyez les conséquences de quelque chose dès le début, alors on ne peut plus appeler ça de la peur. C'est plutôt que vous pouvez vous préparer et vous devenez plus clair. Vous pouvez vous préparer aux choses. Vous pouvez prendre des décisions qui pourront empêcher les choses négatives qui seraient susceptibles de se produire et entreprendre les bonnes actions. Et donc, bon, en un sens, vous pourriez appeler ça de la peur un peu, mais c'est pas vraiment de la peur. Il s'agit plutôt ici de sagesse. Et donc, la personne reprend. Donc Rinpoche dit, il faut avoir de la sagesse, il faut penser correctement, comprendre clairement. Vous ne devenez pas paniqué, vous ne devenez pas craintif. La sagesse est la chose la plus importante. Donc il faut réfléchir et penser correctement. et voir quelle est la chose la plus importante, quelle est la chose correcte à faire en raison de ces conséquences, par rapport à ces conséquences. Il faut d'abord voir les conséquences, et si vous n'aimez pas les conséquences d'une certaine chose, si vous pensez qu'une certaine chose va apporter des difficultés, va causer des difficultés à vous ou à quelqu'un d'autre, alors ne faites pas cette chose ou faites quelque chose pour empêcher ces difficultés d'advenir. Et la personne dit merci, c'est très utile, merci beaucoup. Prochaine question de Emma. Bonjour. Comment allez-vous demande Rinpoché? Je suis à l'hôpital de nouveau. Rinpoché demande qu'est-ce qui s'est passé? Je suis là depuis une semaine. Elle a une tumeur, je crois. Donc elle est à l'hôpital depuis une semaine. Merci pour les enseignements. Et elle va rentrer demain. Elle dit ça lui donne une chance de pratiquer la méditation et qu'elle a beaucoup de gratitude. Rinpoche dit que c'est fabuleux. Et elle dit, je voudrais juste demander, une des choses à laquelle j'ai réfléchi cette semaine, une des choses difficiles pour moi, c'est peut-être une question un peu simple, mais ce serait, elle voudrait savoir la relation plutôt que les différences entre le Dzogchen et le Mahamudra dans le non-faire, le non-agir, dans l'état méditatif et comment ça se passe en pratique sur comment on réagit. Je trouve qu'il n'y a pas forcément une contradiction, mais quelque chose de subtilement différent, ou est-ce que c'est tout pareil au niveau de l'état méditatif? Pour ce qui est de la non-action, de l'esprit, de laisser les choses être dans l'état naturel. Donc elle donne l'exemple du ciel et des nuages qui se dissolvent en lien avec nos réactions une fois que on reconnaît les choses. Est-ce que le Mahamudra et le Dzogchen sont exactement la même chose? Alors, Rinpoche dit oui, c'est la même chose, mais je pense que vous voulez connaître la diligence et ce genre de méditation, dit Rinpoche. Rinpoche dit, on parle de méditation. Par exemple, imaginez que, disons, vous voulez apprendre comment être dans l'état le plus naturel de votre être. Vous voulez aller dans le niveau le plus subtil de votre conscience, qui est libre de toute forme de distraction, qui est libre de toute forme de saisie, qui est libre de toute forme d'activité, on dit parfois. Donc maintenant, ça c'est une méditation, et en fait, cela demande beaucoup de diligence pour y parvenir, d'accord? Parce que notre esprit, si on voulait laisser notre esprit demeurer complètement en repos, en fait, il n'y demeure pas, il ne demeure pas en repos. Au bout de juste quelques secondes, notre esprit est distrait et on doit le ramener au repos. Et ça, plein de fois d'affilée. Et c'est la diligence qui nous permet d'actualiser ça. Il s'agit pas, c'est pas une question d'essayer d'agir, Il s'agit de maintenir la pleine attention. Et donc, il s'agit d'apporter cette pleine attention, de la maintenir. Maintenir cette conscience, cette inaction, entre guillemets, cela, ça demande de l'inspiration, ça demande des rappels constants, ça demande de la présence, et ça requiert également beaucoup de diligence. C'est ça. Donc c'est l'application de la diligence encore et encore et encore, demande la personne, et Rinpoche dit oui. Donc elle parle de laisser les choses être, et Rinpoche, oui, dit laissez votre esprit être complètement détendu et ouvert et présent, mais ne saisissant rien et n'étant distrait par rien. Cela, dit Rinpoche, demande beaucoup de diligence. Est-ce que c'est une pratique, demande la personne, et Rinpoche dit oui. C'est pourquoi Milarepa disait qu'il n'y a rien à faire, mais en même temps, il a montré son derrière. C'était sa dernière et plus importante instruction, c'était de montrer son derrière, pour montrer qu'il fallait pratiquer. Elle dit que c'est comme un paradoxe, mais que c'en est pas un. Et elle dit merci, c'est un travail difficile. Et elle dit merci beaucoup. Et donc, elle dit ça n'a pas vraiment d'importance que l'on appelle ça Dzogchen ou Mahamudra. Au bout du compte, ce qui est le plus important, c'est juste de pratiquer, de venir encore et encore à la respiration, à la présence, au corps. Et juste de continuer encore et encore à revenir à chaque fois qu'il y a de la distraction. Et Rinpoche dit oui, c'est ça, mais d'une façon très détendue. Et Rinpoche dit que pour cela aussi, pour la détente aussi, on a besoin de diligence. Elle dit donc ok, il faut vérifier tout le temps, merci beaucoup. Et Rinpoche dit merci également. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre, demande Rinpoche. Malou. Bonjour, dit Rinpoche. Je voudrais vous remercier beaucoup. Et j'ai aussi reçu des invitations de votre Sangha à participer au groupe d'études du matin. Et c'est très bien. Mais je dois m'excuser de ne pas avoir pu les rejoindre parce que j'essaie de me focaliser un peu sur ma pratique. D'accord, dit Rinpoche. J'ai aussi reçu dans le passé des initiations de Mingyur Rinpoche et d'un autre maître. Et je me disais, puisque vous avez été un étudiant de Dilgo Khyentse Rinpoche, j'ai essayé de faire, elle n'a pas terminé sa phrase, parce que je suis aussi une étudiante de Rigpa et je suis la lignée Enigma. Mais est-ce que je peux combiner les influences de cette lignée de Guru Rinpoche et de ce que je reçois de vous comme ces initiations. Rinpoche dit tout ça, c'est la même chose. La plupart des choses que j'ai moi-même reçues viennent de Dilgo Khyentse Rinpoche. Donc, quel que soit le nom que vous voudriez lui donner, c'était pas vraiment un nigma, c'était plutôt un maître rimé. Et la plupart des grands maîtres de cette époque sont de cette lignée. Ils sont détenteurs des 8 lignées de pratique pour la plupart d'entre eux. Et en fait, il n'y a vraiment aucune différence. Et elle dit oui, j'essaye aussi de voir les choses ainsi. Donc je suis très... j'ai beaucoup de chance. Plus que de la chance. Parce que bien sûr, je suis une étudiante. Et une petite dit, mais tout le monde est un étudiant. Et elle dit, oui, nous sommes tous des étudiants. Donc, même si... Même si une école dit, si je présente tout le chemin et que vous vous enseignez, j'écoute aussi vos enseignements. Et pourtant, c'est quand même un peu... On dirait que... On dirait que rimer, ça veut dire une école qui invite un enseignement d'une autre école. Et Rinpoche dit non, c'est pas ça. En fait, d'abord, tous les enseignements bouddhistes sont enseignés par le Bouddha et ils sont tous identiques. Ils sont tous les mêmes. Maintenant, le Bouddha a enseigné beaucoup d'enseignements différents. Beaucoup de niveaux d'enseignement, des niveaux, des approches, différents styles de méditation, différentes façons de pratiquer. Et tous ces différents niveaux d'enseignement, toutes ces méthodes différentes, sont présents dans toutes les écoles bouddhistes tibétaines. L'énigma, les on, les kagyu, les sakya, les gelug, toutes. Chaque école dispose de tous les enseignements du Bouddha. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, quand vous recevez des enseignements, vous ne pouvez pas tous les pratiquer. Tous les enseignements, par exemple, de la ligne Enigma, on ne peut pas les pratiquer tous. Donc, vous pratiquez une partie des enseignements que vous avez reçus d'Enigma. Vous pratiquez, dans tous les enseignements d'Enigma que vous avez reçus, vous pratiquez ceux qui ont été les plus adaptés pour vous. Donc, vous pouvez faire ça, et vous ne pouvez pas faire plus que ça. Vous recevez certaines pratiques, peut-être de la tradition d'Enigma. De toute façon, c'est tout de la même tradition. Peut-être que vous aurez reçu d'un lama en particulier, ou une pratique en particulier, et vous pouvez pratiquer cela. Et ça, en essence, ça va être la même chose que des pratiques correspondantes dans la lignée Kagyu ou d'autres, ou Gelug ou Sakya. Et aussi, ça va être en essence la même chose que d'autres pratiques de la lignée Enigma, en fait. Mais vous recevez une seule chose et vous pratiquez telle chose. Mais ensuite, vous devez comprendre... Et ça, c'est le point le plus important, et c'est ce que la plupart des gens échouent à comprendre. Vous pensez, moi, j'appartiens à telle tradition qui est très spéciale et qui est la seule tradition authentique, et je ne peux rien pratiquer d'autre, je ne peux pas recevoir d'enseignement de quelqu'un d'autre en dehors de cet enseignant, de cet enseignement. Et ça, c'est totalement incorrect. Parce qu'alors, si vous pensez ainsi, vous allez devenir sectaire. Maintenant, ce que vous devez faire, c'est que, oui, vous devez pratiquer cette pratique particulière, et peut-être que vous n'avez pas besoin d'une autre pratique, mais vous pouvez recevoir des enseignements de beaucoup d'autres enseignants et sur beaucoup d'autres textes, de sorte que cette pratique soit basée sur plein d'enseignements. Et donc ça ne se contredira pas. Les différents enseignements que vous aurez reçus, au lieu de contredire cette pratique, ils vont l'enrichir. Et donc Rinpoche dit, vous n'avez pas besoin de continuer à pratiquer plein de choses différentes pour devenir rimé. Vous continuez à pratiquer une pratique que vous pratiquez, ou si vous voulez en pratiquer une ou deux autres aussi, mais ça n'est pas nécessaire. Mais vous devez avoir cette compréhension que c'est pareil, que vous pouvez avoir le même respect, la même ouverture. Vous pouvez recevoir des enseignements de n'importe quel autre enseignement authentique et sur n'importe quel autre enseignement authentique. Et si vous avez cette compréhension, cette ouverture, alors vous êtes rimé. Donc rimé ne signifie pas que vous devez tout pratiquer. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez même pas tout pratiquer rien qu'au sein de la lignée Enigma. Vous ne pouvez même pas pratiquer l'intégralité de la lignée Enigma et ça n'est pas nécessaire. Donc c'est ça le point important. Je voudrais m'excuser auprès de la Sangha si vous ne répondez pas. Si je ne réponds pas. Et Rinpoche dit, ça n'est pas du tout nécessaire. C'est de l'ego. Et je suis sûr qu'ils invitent tout le monde, n'est-ce pas? Et donc, si vous avez le temps et si vous le voulez, vous pouvez participer une fois, deux fois, trois fois. Une fois par mois, une fois par an, ou pas du tout, c'est complètement à vous de voir. Ça n'a aucune conséquence. Si vous ne participez pas, personne ne pensera rien de mal vous concernant. Si vous voulez pratiquer, ou si vous voulez faire quelque chose ensemble une ou deux fois, c'est aussi ok. Il y a vraiment aucun problème. Aucun moment il y a l'idée que j'appartiens à Rigpa, donc je ne peux pas participer à telle autre chose, parce que si je participe à telle et telle autre chose, je deviendrai non-Rigpa, par exemple. Il y a rien de tel, d'accord? Donc, quand vous le souhaitez, ou quand vous pouvez participer, et si vous n'avez pas envie ou vous ne pouvez pas, vous ne participez pas. Il y a vraiment aucune obligation, il n'y a rien de tel. Donc vous n'avez pas à vous sentir mal à cause du fait que vous ne pouvez pas participer. Personne ne va vous blâmer ou penser du mal de vous. C'est bon, merci, dit la dame. Merci. Et puis, il y a eu une question de Annie Dibble, mais en fait, qui n'avait pas de question. Elle a dit, je ne sais pas pourquoi Andy m'a invité, parce que j'avais pas de question. Et Andy dit, bah, c'est parce que vous avez levé la main dans Zoom. Et Rinpoche plaisante en disant, sans doute, ce n'est que parce que Andy avait envie de vous voir. Donc, la question suivante est de Ola. Et elle demande des précisions sur Vajradhara. Donc Vajradhara, on dit qu'il a donné les enseignements de la lignée Kagyupa à Tilopa. Mais qui est Vajradhara? Qu'est-ce que c'est que Vajradhara? Est-ce que c'est un Bouddha? Qu'en est-il exactement? Alors Rinpoche répond. Vajradhara, c'est une chose très compliquée. Vajradhara, dit Rinpoche, il est dit que Vajradhara est le Bouddha primordial, le premier Bouddha. Mais alors, quiconque qui est éveillé, on va dire que cette personne devient éveillée en tant que Vajradhara. Et ça, ça a l'air paradoxal. Donc si je m'éveille, je deviens éveillé en tant que Vajradhara. Donc comment puis-je devenir Vajradhara puisque Vajradhara est le premier Bouddha? Moi, je devrais plutôt être le dernier Bouddha, le plus récent, et pas le premier. Comment puis-je devenir Vajradhara? Et la compréhension, elle est la suivante, que quand vous devenez éveillé, il est dit ainsi, vous ne vous dites pas, ah, hier, je n'étais pas éveillé, l'an dernier, je n'étais pas éveillé, maintenant, je suis éveillé. Ça y est, à ce moment même, je viens de m'éveiller. Vous ne vous dites pas ça. On dit que ce que vous ressentez, c'est « Ah, j'ai toujours été éveillé. Il n'y a eu aucun moment, je n'ai pas été éveillé. Comment ai-je bien pu ne pas le comprendre? Comment ai-je bien pu ne pas m'en rendre compte avant ?» On dit que c'est ça que vous sentez. Et donc, vous êtes un Bouddha primordial. C'est ça que vous réalisez. Et donc, c'est pourquoi n'importe qui de complètement éveillé, vous pouvez appeler cette personne Vajradhara. Et donc, quand quelqu'un comme Tilopa ou n'importe qui d'autre qui devient complètement éveillé, vous pouvez dire j'ai reçu cela de Vajradhara, si vous le souhaitez. Mais en fait, Vajradhara n'est pas nécessairement quelqu'un de couleur bleue qui serait nu et qui viendrait et qui serait Vajradhara. C'est pas nécessairement ainsi. Tilopa a reçu ses enseignements de beaucoup d'enseignants. En fait, ses enseignements de quatre lignées principales. Il a reçu les enseignements, ce qu'on appelle les six yogas de Naropa. En fait, c'est les six yogas de Tilopa, parce que ça vient de Tilopa. En tous les cas, il a reçu beaucoup d'enseignements de tout le monde, mais tous ces enseignements, pour lui, étaient comme le Bouddha primordial, parce que il est lui-même devenu inséparable du Bouddha primordial. Et donc, habituellement, vous avez déjà vu l'arbre du refuge, la tanka. En haut, il y a Vajradhara. Et au milieu, il y a Vajradhara, n'est-ce pas? Bon, celui du haut, c'est le premier Vajradhara, c'est comme le Bouddha. Celui qui est au milieu, c'est votre enseignant. Si il est éveillé, il est semblable à Vajradhara. Et donc, Vajradhara, ça peut aussi signifier l'essence éveillée de vous-même, votre propre essence éveillée. Donc Vajradhara n'est pas une personne qui a eu une existence historique. Vous comprenez? Mais du coup, elle parle de ok, si c'est le Bouddha primordial, mais comme on dit que les temps sont sans commencement, qu'est-ce que ça veut dire être le Bouddha primordial? En fait, qu'est-ce que c'est... En gros, la personne, ce qu'elle dit, c'est, mais si les temps sont sans commencement, qu'est-ce que c'est... quel est le sens de Bouddha primordial? Rinpoche dit, je n'ai pas entendu très clairement. Rinpoche lui demande de parler lentement parce qu'il explique qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec la connexion, avec Zoom, dit Rinpoche. En fait, on entend de nouveau pas grand-chose. Mais ça... Si le temps est sans commencement, comment est-ce qu'il pourrait y avoir un Bouddha qui serait primordial? En fait, elle répète, mais c'est la même chose que ce que j'ai déjà traduit. Alors, Rinpoche répond, vous savez, le temps est relatif, n'est-ce pas? Le temps est une chose relative. Vous dites par exemple présent, passé, futur, d'accord? Nous, nous disons présent, passé, futur, n'est-ce pas? Donc, maintenant, c'est le présent. Hier, c'était le passé. Demain, c'est le futur, d'accord? Mais... En fait, quand on dit ça, on ne pense qu'à notre propre temporalité maintenant. Parce que maintenant, on est maintenant, mais et le moment suivant, ce n'est pas maintenant. Mais si vous voulez vraiment trouver le moment présent, vous ne pouvez pas trouver un moment présent parce que c'est tellement et totalement relatif. En fait, le présent, on ne le définit qu'en relation avec le passé et le futur. Et donc, s'il n'y a rien qui s'appelle le présent, alors qu'est-ce qu'on appellerait le passé? C'est parce que je peux parler du présent que je peux parler du passé, et parce que je peux parler du présent que je peux parler du futur. Le futur est basé sur le présent. Enfin bref, tout est relié. Donc le passé, le futur et le présent sont complètement relatifs. Il n'y a rien qui serait réellement existant. Bien sûr, nous pensons qu'il y a eu un passé, qu'il va y avoir un futur, que le passé a duré très longtemps, que le futur va durer très longtemps, mais en fait, le passé, le futur et le présent sont des termes très relatifs, n'est-ce pas? Donc, quand vous dites... primordial, on peut rien trouver qui soit primordial en fait. C'est pourquoi, quand vous devenez éveillé, vous pouvez devenir le Bouddha primordial parce que le temps est une chose si relative. Et quand vous comprenez que le temps est une chose relative, alors il n'y a rien qui s'appelle temps et qui existe en soi. En tout cas, Rinpoche dit c'est pas si simple parce que pour nous le temps est très linéaire et les choses doivent être ainsi, mais en fait ça n'est pas si concret et solide que ça. Donc Rinpoche dit je vais juste répondre aux deux questions qu'il me reste, et puis nous conclurons. Donc la troisième question de José, Mathieu. Rinpoche dit, je ne sais pas si je le prononce correctement ou pas, son nom. Comment pouvons-nous aider une personne dépressive qui n'est pas intéressé par le bouddhisme ou même pas par la spiritualité. Bien sûr, nous pouvons lui témoigner de notre amour, prier pour lui, l'envoyer consulter un psychologue ou un psychiatre. Pouvons-nous également expliquer à cette personne les quatre nobles vérités ou avez-vous d'autres conseils sur la bonne manière d'aider ? Rinpoche dit « Je ne pense pas que les choses aient à voir avec le fait qu'une personne soit bouddhiste ou non. » Quand quelqu'un est déprimé, on est déprimé. Quelles que soient les croyances que l'on ait, quelles que soient les choses auxquelles on croit, on ne croit pas. C'est pas tellement ça la question. Mais vous devenez déprimé pour différentes raisons, pour différentes causes et conditions. Je pense que la chose la plus importante, c'est d'essayer de trouver quelles sont les différentes causes et conditions qui conduisent à cette dépression. Parfois, ça peut aussi avoir des origines physiques, par exemple des problèmes dans le cerveau. Parfois, il y a aussi des dépressions qui peuvent être soignées avec des médicaments, peut-être. Alors, il faut utiliser cela. Parfois, les dépressions, on peut les soigner avec des méthodes de différents types, quelles qu'elles soient, de type spirituel ou plutôt au niveau psychologique ou psychiatrique, quelles que soient les méthodes. Il y avait aussi une personne que j'avais rencontrée et son soignant, son thérapeute a découvert que si elle arrêtait de manger du sucre, ça l'aiderait et alors elle a arrêté de manger du sucre et c'est allé mieux pour elle. Donc, il y a beaucoup de choses différentes, et beaucoup de raisons différentes, beaucoup de causes et conditions différentes. Donc, je pense que ce qui est important, c'est d'essayer d'utiliser tout ce qui pourrait apporter de l'aide. Si vous voulez utiliser quelque chose de spirituel, en fait, le bouddhisme ne va pas vous recommander de faire que des choses bouddhistes. Il ne va pas vous limiter à faire que des choses bouddhistes ou des activités du dharma. Le bouddhisme, il essaye toujours de trouver ce qui pourrait aider et de faire cela. Et cette chose qui, si elle aide, elle n'a pas besoin d'avoir l'étiquette bouddhiste. Donc, et même les bouddhistes n'ont pas besoin d'utiliser que des méthodes bouddhistes ou des méthodes qui ne se trouveraient que dans les enseignements du Bouddha. Ça, c'est quelque chose de très important. On n'a pas besoin. Donc, je ne sais pas ce qui va aider cette personne qui a un état d'esprit dépressif, il peut y avoir différentes choses. Je pense que j'ai parlé de cette personne au Tibet. En fait, l'un de mes proches, une femme, elle était très déprimée et elle n'arrivait même plus à voir qui que ce soit, elle n'arrivait plus à parler à qui que ce soit. Elle était incapable de faire face aux gens. Et un lama lui a recommandé de faire un pèlerinage à Lhasa. Et c'était difficile pour les gens de la convaincre. Mais bon an mal an, ils l'ont convaincu de faire ce pèlerinage, et donc ils l'ont emmené, et après 2 ou 3 jours de pèlerinage, elle a commencé à aller mieux, et elle est allée de mieux en mieux, encore et encore, et puis elle est allée à Lhasa, et puis quand elle est revenue, elle était complètement guérie, et il n'y avait plus de problème. Donc, c'est pour dire qu'il y a vraiment plein de méthodes et de raisons différentes qui peuvent être utilisées, qui peuvent être mises en œuvre. Et donc, il n'y a pas une seule solution. Et ça, c'est la façon bouddhiste de penser. Le fait qu'il n'y a pas une seule solution. Donc, un médecin, un psychologue, un psychothérapeute, un psychiatre, un thérapeute, n'importe. Peut-être que nous pouvons essayer des méthodes légèrement différentes pour voir si ça fonctionne, ce genre de choses. Bien sûr, le point principal, c'est que la personne veuille aller mieux. Et vous apprenez à vous détendre, vous essayez de ne pas être aussi trop impliqué. Le fait d'avoir trop d'attachement, trop d'aversion, ça, c'est la raison principale pour laquelle nous devenons déprimés. Donc, si nous pouvons faire en sorte que notre esprit soit un peu plus spacieux, plus détendu, on utilise un peu notre contact avec la nature, peut-être des choses un peu physiques, nous essayons de marcher, nous essayons de faire du jardinage, nous distrayons notre regard, tout ça, ça peut aider aussi. Et puis, si vous apprenez à vous détendre, même la méditation peut devenir une bonne chose. Donc, il y a la musique, toutes sortes de choses, différentes choses qui peuvent nous aider à être détendus, non oppressés. Donc c'est tout ce que je peux dire ici, parce que je ne sais pas, en fait, comment soigner la dépression. Donc, et ça, c'était ça va être la dernière question de Rinchen. Peut-on dire que quand l'esprit est dans un état non-duel, il n'est pas possible d'accumuler du karma? Je pense qu'on peut le dire Rinpoche. On peut le dire d'un point de vue philosophique. Habituellement, on parle de 3 karmas. Le karma négatif, les actions négatives, le karma ou les actions positives, et puis il y en a un autre, un troisième, qui est myo-ele myo-wa en tibétain, ça veut dire immuable. Myo-ele, c'est le karma immuable. Peut-être c'est quelque chose qui est comme tranquille, comme de l'eau qui ne bouge pas. Donc un karma immuable. Parfois, on dit que si on est dans un état méditatif très profond, vous allez aller dans différents niveaux de votre conscience. On parle des 4 samadhis, de différentes sortes de choses. Et ça aussi, ça appartient au karma immuable. Et donc, ça aussi, je ne sais pas ce que non-duel signifie, en fait. Parce que non-duel, ça peut aussi avoir des niveaux très différents. Donc, ça pourrait... On pourrait faire un lien aussi entre non-duel et ce karma. Donc, c'est tout ce que je peux dire. Donc, merci beaucoup. Et je vous souhaite à tous le meilleur. Passez tous une très bonne journée, soirée, selon l'endroit où vous vous trouvez. Et merci beaucoup et à bientôt. Merci.